Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast Superphysique hebdomadaire. Je suis avec le fabuleux, le génial Julien Vénesson, auteur du livre La nutrition de la force.
Salut Rudy.
Et je suis avec Maxime, donc mon élève qui avait déjà participé à un petit podcast et qui s'est donc reproposé pour participer. Donc merci à Max. Salut Max.
Salut tout le monde.
Merci Maxou.
Merci Maxou. Ça démarre bien. Alors, Max, donc c'est toi qui anime ce soir le podcast.
Ok. Donc, petite question d'actualité. Il y a eu le FIBO il n'y a pas longtemps. Donc, si tu peux en parler.
Voilà, ouais, bah, j'ai vu. J'ai pas été cette année au FIBO. Donc, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas, le FIBO, c'est la plus grosse manifestation sur le monde de la musculation dans le monde entier. Donc, à ceux qui rêvent tous d'aller voir Olympia ou l'Arnold Classic, etc., et qui s'imaginent que c'est énorme. Bah ça fait même pas un hall d'exposition du FIBO. Donc le FIBO, quand j'avais été, j'avais fait un reportage sur le site justement il y a 2-3 ans, il y avait déjà 11 halls, et déjà beaucoup plus, donc 11 halls plus grands que le hall du Salon de Paris. Donc c'est énorme, on y retrouve à peu près tous les professionnels du bodybuilding, il y a une compétition, il y a des concours, il y a des stands de protéines, il y a plein de belles filles, qui sont à moitié nues en plus pour essayer de vendre.
Ah bah je vais y aller.
Donc là on a vu que j'ai vu que Gundil, Delavier, puis ils avaient été avec là j'ai oublié son prénom ton troisième
Jordan.
Non pas Jordan, j'ai oublié son nom. Un fan de Superman avec qui je m'entends bien, j'ai oublié son nom. Enfin bon, ils avaient été, donc ils ont mis pas mal de photos etc. Et
Thanos, pseudo,
voilà, avec Thanos, c'est ça. Avec Thanos des forums, donc ils ont fait un bon reportage, pas mal de photos donc sur leur Facebook respectif. Donc on a pu voir que c'était comme juste, c'est super. Donc tous ceux qui sont fans de musculation, c'est vraiment un salon que je conseille.
On a pu voir aussi le regard vicieux de Michael Gundil sur les photos. Je sais pas si vous avez vu.
Oh putain, ah, il est en forme ce soir, Julien.
J'ai fait un commentaire sur une photo et ça a beaucoup plu manifestement.
Mais j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, donc pour revenir sur le FIBO, en plus c'est pas très cher, ça coûte 10 € l'entrée. Après ce qui est chiant, c'est que c'est en Allemagne, donc faut se déplacer, mais si vous êtes fan de musculation, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc pour cette année c'est fini, puis l'année prochaine, bah c'est toujours vers le mois d'avril, donc on en reparlera juste avant, ce coup-ci on avait un peu oublié, je crois. Donc voilà. Donc
je l'ai fait aussi.
Dis-moi.
Pourquoi tu n'y es pas allé cette année?
Bah parce que je me suis dit, j'ai déjà été plein de fois et puis c'est vrai que maintenant je suis moins motivé par les salons. Je suis moins motivé en fait pour voir les pros parce qu'en fait je les ai déjà tous vus. Et puis maintenant je suis vraiment dans le truc super physique quoi. Mon truc c'est super physique, c'est le club super physique, c'est l'ambiance super physique. Et aller dans un salon où on encourage le dopage entre guillemets, ça me motive plus trop quoi. C'est plus comme quand j'étais gosse et que je me disais, oh je vais être comme les mecs, je vais être balèze et en restant naturel quoi. Là, je sais que ça ne va jamais arriver. Et donc, je préfère voir l'entraînement de mon pote Karim ou de Jean-Denis ou pour me motiver plutôt que d'aller voir des mecs qui sont dans un autre monde, en fait. Donc, ça m'intéresse plus trop d'aller dans les salons, même si c'est une expérience. Je pense que j'y retournerai au moins. J'y retournerai peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, histoire d'aller faire un tour, quoi. C'est toujours sympa.
Pour Super Physique, ouais, ce serait peut-être sympa d'avoir un petit... Un nouveau reportage, je pense.
Ouais, bah je pense. Bah on ira ensemble, Julien, l'année prochaine, alors, vu qu'il y a des belles filles et que tu veux y aller.
Bah écoute, on verra ça, ouais.
Et voilà. Donc, je voulais refaire un petit point sur mon e-book, qui est officiellement sorti pour tout le monde. Donc, mon e-book, c'est Rudy Koya, mes secrets pour sécher. Donc, juste avant l'été, comme par hasard. Donc, c'est en vente aussi bien sur Superphysique que sur mon site, donc www.rudykoya.com. Donc je voulais juste faire un petit point, donc j'ai déjà dit le sommaire la dernière fois, donc le livre est très complet. Julien Vénesson a fait un commentaire sur mon site.
Vous pouvez... Oui, bah je l'ai lu le bouquin. Et effectivement, il est bien. Moi j'ai dit honnêtement dans mon commentaire, j'avais été un peu déçu par le premier. Et je trouve que le 2 est vraiment...
Et c'est marrant que tu dis ça, parce qu'il y a un mec qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il préférait le premier. Tu vois, tu m'as envoyé ça, il y a un mec, il m'écrit, il me dit, ouais, le premier c'était mieux parce que j'apprenais des trucs, il dit c'était mieux sur l'entraînement, là, sur la diète,
Je dis, ouais, mais bon. Bah, c'est peut-être plus, ça dépend peut-être aussi des objectifs et des connaissances de chacun, hein, mais
Ouais, bah, moi je trouve qu'il est mieux le deuxième, hein, aussi. Je trouve qu'il est vachement mieux, il est plus pro, il n'y a rien à voir, quoi.
On voit que tu t'es plus investi dans le deuxième.
Le premier avec un seul objectif, c'était apprendre à faire son programme, donc il est toujours en vente. Hein. C'était comprendre comment on faisait son programme, comment on progresse, etc. Et là, bah, le deuxième, c'est vraiment toute la sèche globalement avec la nutrition, l'entraînement, les suppléments, les astuces, comment faire sa diète, comment se fixer un objectif. Donc c'est vraiment, là c'est plus qu'un sujet en fait, c'est assez global. Donc, ouais. Donc voilà, donc ça se retrouve en vente, sur Superphysique et sur Edicoya.com. Et ceux qui ont acheté l'ebook, j'attends votre témoignage. Parce que je vous le demande, mais à chaque fois, j'attends. Quand vous commandez l'ebook, dernier point, en général, je l'envoie en 24 heures à peu près l'ebook, maximum 48 heures, donc pas besoin de... Certains s'énervent parce qu'ils ne le reçoivent pas directement. Donc non, vous ne le recevez pas directement parce que je l'envoie manuellement. Donc voilà. Donc voilà, on peut passer aux questions du jour, Max.
Ah bah, il est temps, hein.
Julien, il est en format, ça, moi, celui-là. Le génial Julien Ménesson.
Allez, en parlant de Julien, on commence à une question d'esthétique. Quand on parle de prise de muscle, de prendre 500 grammes pour une ou deux semaines, que c'est bien, que plus on prend du gras. Mais qu'en est-il pour les différences de taille? Par exemple, la personne qui pose la question, elle fait 1m65. Est-ce que 500 grammes, pour lui, c'est beaucoup de trop? Et est-ce qu'il y a une différence entre lui et une personne qui fait 1m90? Et même principe au régime.
Ouais, donc c'était 500 grammes par
voilà, c'est la question. Est-ce que si je mesure 1m65, 1m90, est-ce qu'on conseille le même rythme de prise de muscles, donc à 500 grammes par semaine ou toutes les deux semaines, quelle que soit la taille de l'individu?
Ouais, donc je crois que la personne qui posait la question, c'était un lecteur de mon livre, hein, où je parle de la prise de muscles. Le chiffre de 500 grammes par semaine ou quelque chose comme ça, il est complètement arbitraire et indicatif. Ce qu'il y a, c'est que c'est objectivement un chiffre qui n'est pas très élevé. Il ne faut pas se focaliser vraiment sur le chiffre en lui-même. Si on fait 600 grammes ou 550 grammes par semaine ou même 400 grammes au lieu des 500, ça n'a pas une grande importance, c'est pas vraiment ça le but. Il faut pas se focaliser sur le chiffre, il faut se focaliser sur la démarche. Et la démarche, c'est celle qui consiste à essayer de prendre de la masse musculaire sans prendre trop de masse graisseuse. Donc évidemment, comme c'est un processus qui se fait beaucoup plus lentement que de prendre du gras, ben, on donne un petit chiffre qui sert d'indicateur. Mais il n'y a pas besoin de se référer à un chiffre en particulier. De fait, la question de savoir si quand on fait 2 mètres ou quand on fait 1m20, il faut s'occuper de savoir si on gagne 500 grammes ou plus ou moins, ben, elle n'a pas de sens puisque il n'y a pas de chiffre vraiment de précis qui soit déterminable à partir du moment où on ferait du muscle avec pas trop de gras et d'un seul coup, hop, on ferait trop de gras. Ça, c'est pas possible de le déterminer. Donc la seule chose à faire, c'est d'être vigilant, de se regarder régulièrement dans le miroir. Moi, je conseille souvent de prendre des photos pour voir son évolution parce qu'on se rend pas bien compte et les mesures de masse grasse sont rarement assez précises.
On n'aime pas les mensurations aussi.
Ouais, parce que c'est pas toujours très fiable, alors que si on fait des photos toujours dans les mêmes conditions et qu'on les regarde une fois par semaine, une fois par mois et qu'on regarde l'évolution, on voit vraiment les changements de la répartition de la masse grasse, de la répartition de la masse musculaire qui sont pas possibles ou plus difficiles à voir autrement.
Perso, j'aime bien faire la moyenne, en fait, quand on dit 500 grammes par semaine, j'aime bien faire une moyenne en fait sur le mois pour voir si le mec prend par exemple, quand un de mes élèves prend par exemple 500 grammes une semaine et qu'après il prend pas, et puis qu'il prend pas, et puis après il prend 200 grammes, je fais la moyenne, je dis bah ça fait 700 grammes par mois, donc ça ferait pas mal, tu vois, en fait je fais une moyenne sur le mois plutôt qu'à la semaine ou toutes les deux semaines.
Ouais, donc
c'est pour voir pas mal. S'il reste dans le vrai ou pas, parce que sur une semaine, c'est vrai que des fois c'est un peu trop rapide.
Ouais.
De déterminer
si c'est bon. Ce qui est important, c'est toujours de penser à aller dans la bonne direction. Et les photos, c'est un bon outil pour voir son évolution parce que ça permet de juger sur un physique. Et ce qu'on veut obtenir, c'est un physique, c'est pas forcément un poids. On veut avoir l'air de quelque chose. On peut d'ailleurs avoir l'air très costaud en étant finalement pas très musclé ou même donc l'aspect visuel c'est quand même le plus important je pense.
Ouais et puis c'est important comme tu l'as dit de faire les photos toujours dans les mêmes conditions Parce que s'il suffit que t'aies pas le même éclairage et compagnie, tout de suite tu peux plus comparer, puis tu peux être un peu mieux. D'un coup t'es super, et puis d'un coup t'es beaucoup moins bien. Donc vraiment que ce soit fait dans les mêmes conditions pour qu'on puisse bien comparer.
Ouais, tout à fait. Donc voilà pour la question, Maxime.
Mais pourquoi vous êtes pas pour les mensurations ?
Julien.
Parce que les, les mensurations, bah, ça dépend lesquelles déjà. Et puis elles vont te donner un chiffre, mais elles vont pas te permettre de t'indiquer ce qui va se passer au niveau de la répartition, comment dire, de la masse grasse. Si tu compares par rapport à des photos, tu vas, par exemple, supposons que tu utilises une balance à impédance-mètre, bon, c'est pas très fiable du tout, mais bon, c'est un exemple bien grossier. Elle va te dire que tu as tel pourcentage de masse grasse un jour, tel pourcentage de masse grasse un autre jour, mais le gras qui est parti, c'est pas forcément là où tu voulais que ça parte. Donc effectivement, prendre une pince, par exemple, pour mesurer la composition corporelle, c'est plus précis que de se peser déjà, donc c'est déjà bien. Et la photo, ça permet de voir visuellement ce que ça donne. Et en fait, quand on se regarde pas, on n'est pas capable de se rendre compte de ça. Il y a aussi le fait que le corps peut changer relativement vite, beaucoup plus vite que ne peut l'interpréter l'esprit. Un exemple simple de ça, c'est quand on a été malade, on a eu, je sais pas, une grippe, une gastro, quelque chose comme ça, et on revient voir ses amis quelques jours plus tard, et on est assez fatigué, et puis ils disent « Oh, t'as maigri !» Et nous, on voit pas spécialement qu'on a maigri, alors que les autres le voient. Parce que ça s'est fait sur un laps de temps très court, et on n'a pas ce regard sur notre image aussi fiable. Donc les photos, ça permet d'avoir ce regard extérieur qui est très fiable.
Il faut dire que les mensurations aussi, ça varie tout le temps. Car moi, je me souviens quand j'étais gosse, je faisais quand j'avais 14-15 ans, je prenais mes mensurations tous les mois. Et il y a des mois où tu perdais un centimètre de bras parce que t'avais mangé un peu moins ou t'avais fait les bras 6 jours avant et puis après t'avais fait des mensurations genre t'avais fait les bras 2 jours avant ou.
Oui, alors il y a ça aussi, mais bon, ça dépend de la manière dont tu mesures. Si tu as une pince cutanée, c'est déjà plus précis. Mais si tu te mesures avec un mètre, par exemple, effectivement, c'est pas précis du tout, parce que au niveau du muscle, dans les tissus, il n'y a pas que du gras, hein, il y a aussi de l'eau, il y a aussi du glycogène. Donc si je mesure mon tour de biceps, exactement comme tu dis, Rudy, entre un moment et un autre, il peut y avoir plus ou moins de glycogène à l'intérieur. Il peut y avoir aussi une inflammation qui peut être liée à l'entraînement qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc, on va avoir un biceps qui est plus important ou moins important, c'est selon. Et au final, on va pas avoir des bons repères parce que ce qu'on va regarder, ce sera pas la variation de la graisse corporelle à ce niveau-là. Ce sera la variation du volume. Mais la variation du volume, elle nous indique pas forcément qu'on a pris du gras ou perdu du gras.
Ah oui, il suffit de manger une pizza la veille et puis le lendemain, t'as les bras plus gros aussi.
Donc effectivement, les mesures de graisse locales sont plus précises que les mesures globales avec les balances, mais c'est néanmoins pas parfait, et en plus, ça ne permet pas d'avoir ce que j'explique au niveau de l'image, de l'appropriation de l'image, et ça, c'est quand même assez important en musculation, je pense.
Alors, Max, voilà. ça répond à ta question ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que Julien Vénesson a été génial ?
Super génial. Bon allez, question entraînement. Donc Rudy, on sait que t'es pas pour l'échec. Et si malheureusement on s'est surestimé sur la première série et que on n'arrive plus à gérer la fatigue musculaire et qu'on peut pas se mettre sous une charge de seulement moins 2 kilos, comment on peut gérer l'entraînement si l'échec arrive à la première, deuxième, troisième ou quatrième ou cinquième série?
C'est marrant ça, c'est comme question parce que ça, je vais raconter une anecdote.
Ah.
Ah.
Papy Rudy, raconte-nous les anecdotes.
C'est quand j'avais fait, quand j'avais bien progressé au coucher, je crois que c'était il y a 2 ans. Quand j'étais passé de 10 à 125 à 10 à 135 au coucher en 6 mois. Et ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'arrivais plus à enchaîner les séries. En fait, je me conditionnais tellement. C'est ce qui se passe un peu avec les powerlifters aussi en fin de cycle. C'est que tu te conditionnes tellement pour réussir ta première série qu'après t'as plus de jus pour faire les autres en fait. Donc t'es pas forcément à l'échec sur la première, mais tu t'es tellement conditionné à arriver à ton chiffre. Donc à l'époque par exemple, je me souviens quand j'ai fait 10 à 130, et bah la première semaine je sais plus, j'avais fait 3 fois 8 à 130, vachement dur et tout. Et puis deuxième semaine j'avais fait 9 à 130, puis genre la deuxième j'avais plus fait que 5 reps quoi, donc je m'étais dit ça sert à rien. Et donc quand j'avais fait 10 à 130, j'avais plus fait qu'une seule série. Donc en fait, voilà comment j'avais géré le truc, mais c'était dans une optique plutôt performance en fait. Je faisais une série en montant, donc chaque semaine, donc pareil, après pour quand j'avais fait 132, j'avais fait 8, 9, 10, pareil, une série sur 3 semaines, et puis pour 135, pareil, 8, 9, 10, en se conditionnant mentalement. J'avais fait un article justement sur mon site là-dessus, visualiser pour progresser. Donc je faisais ça vachement important. Mais donc c'est vrai que si on arrive à l'échec sur la première série et qu'on a tout donné, c'est vrai qu'on va pas être capable de faire une deuxième, troisième, quatrième ou cinquième série. Mais ça, normalement, ça n'arrive vraiment qu'en fin de cycle d'entraînement et pas en début. Si ça arrive en début de cycle, c'est qu'on est parti beaucoup trop haut et qu'il faut.
Ou alors qu'on mange pas assez aussi.
Ouais, bah qu'on est au régime, voilà, ou qu'on est au régime. Ouais. Tu sens que quand tu manges moins, d'un coup, t'as plus de jus. Tu sens que tu sens qu'il manque quelque chose.
Moi, c'est un truc que je vois souvent, ça. Hein. Des gens qui mangent pas assez pour faire des cycles.
Ouais, tu te sens que la première série va bien, tu te dis putain, mais j'en fais encore 5 ou 6. Et puis deuxième série, tu te dis putain. Puis la troisième, tu te dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis putain, je suis tout cramé, il n'y a plus rien. Enfin, bon. Et donc voilà, donc ça m'était arrivé, mais en fin de cycle, justement, donc j'avais fait toute la base avant en 3-4 séries. Et donc en fin de cycle, en fait, bah, je faisais plus qu'une série, deux séries, puis après plus qu'une série. Puis après, voilà quoi, mais donc voilà, si ça arrive comme ça, bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est, tu fais ta série, puis après, si t'arrives encore, t'as encore un peu de marge à monter, tu montes chaque semaine, et puis sinon, bah, tu reprends un cycle de plus bas. C'est comme ça que je ferais, personnellement, quoi. Max, c'est clair?
Oui, tout à fait. Donc, une question diététique. Vous conseillez régulièrement de prendre des formules anti-cataboliques au cours de l'effort. Des BCAA, pétides. Mais ne risque-t-on pas alors de limiter l'anabolisme si le catabolisme est moindre?
Oui, donc c'est une question à laquelle on a répondu il y a, je sais pas, peut-être, je dirais 5 ou 6 podcasts, Rudy, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, ouais, bah c'est une question qui revient régulièrement, on va dire.
Régulièrement, hein?
Ouais, ouais, dans un podcast, je crois qu'on en avait déjà parlé aussi.
Bah une fois, c'est pas régulier.
Non, mais avant, dans les vieux podcasts.
Ah bon? Bah je m'en rappelle pas.
Bah c'est vrai, ils sont tellement vieux.
Bah c'est possible, ouais. En tout cas, j'ai toujours trouvé que c'était une question intéressante parce que quand j'étais jeune, je me l'étais moi-même beaucoup posé, en fait. C'est quelque chose qui m'avait interrogé. Et en fait, le concept traditionnel qu'on utilise en musculation pour représenter ce qu'on est en train de faire, finalement, et puis les bénéfices de l'entraînement, c'est de dire que quand on fait un entraînement de musculation, on détruit la fibre musculaire, que cette destruction du tissu musculaire envoie un signal qui dit au corps de reconstruire le muscle pour le rendre plus solide et plus performant. Et de là, il y a surcompensation, donc on fabrique un petit peu plus de fibres musculaires, et du coup, on a un muscle qui s'hypertrophie, donc qui grossit. Voilà, ce serait le fonctionnement de base de la muscu. Et donc, à partir de là, si c'était vraiment comme ça que les choses marchaient, on aurait de meilleurs résultats en ne mangeant pas pendant l'entraînement et en ne mangeant pas non plus avant l'entraînement, puisque s'il y a des aliments qui circulent dans le sang, ils sont utilisés par les muscles et donc ils limitent ce catabolisme musculaire qui est produit normalement pendant la séance. Or, ce qu'on constate dans la pratique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin de discuter là-dessus. Je pense que tout le monde est au courant que quand on prend des protéines avant l'effort et qu'on a une bonne nutrition aussi pendant l'entraînement, on améliore les gains de masse musculaire à long terme. Et ça indique quelque chose, c'est que ce qui déclenche le stimulus de la croissance musculaire, ça n'est pas le catabolisme, c'est la contrainte mécanique, donc c'est la contrainte de charge ou pas de charge d'ailleurs, ça peut être à poids du corps ou non. Cette contrainte mécanique, elle stimule des facteurs de croissance qui, eux, vont provoquer ensuite l'hypertrophie. Néanmoins, le catabolisme musculaire est partie intégrante de la contraction, en particulier pendant la phase négative du mouvement. Et donc, dans les études, c'est très compliqué de réussir à isoler ce facteur-là, puisqu'il y a toujours une phase négative, ou presque toujours. Donc, c'est très difficile de réussir à prouver, prouver ça. Ça a été très très compliqué. Il y a des études qui le suggèrent, mais on n'a pas, On n'a pas les mécanismes complets là-dessus, mais bon, comme on a quand même la pratique qui nous montre qu'effectivement, c'est pas comme ça que ça marche, hein, comme je viens de l'expliquer, si on prend des nutriments pendant l'entraînement, on a de meilleurs résultats. Donc, c'est pas le catabolisme qui est important. Un autre exemple d'ailleurs, hein, on a les stéroïdes anabolisants et d'autres hormones utilisées dans le culturisme sont des anticatabolisants pour certains, et en tout cas stimulent fortement la synthèse protéique. Et pourtant, ils produisent des gains de masse musculaire encore plus importants, donc alors qu'ils limitent aussi le catabolisme, en tout cas sa durée et son intensité pour certains produits. Donc voilà, grosso modo.
Voilà le petit rappel.
Ouais, le petit rappel, c'est que cette notion de dire que c'est le catabolisme musculaire qui provoque l'hypertrophie, bah c'est pas juste, mais c'est juste une notion très très simple et très facile à utiliser. Beaucoup plus simple quand on discute de muscu de parler comme ça que de commencer à expliquer que c'est des facteurs dérivés de l'IGF qui induisent l'hypertrophie aux muscles.
Non mais.
En particulier d'ailleurs un facteur qui s'appelle le mécano gross factor, ça veut dire facteur de croissance mécanique.
Là, tu pourrais donner l'abréviation quand même pour les connaisseurs.
Eh ben, MGF, mécano grosse factor.
Voilà. Donc, bon, bah, ça a été un bon rappel, je pense, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on en a parlé en détail et plus en détail encore il y a quelques podcasts, donc.
Et Maxime, il est bien silencieux, hein.
Ah, Maxime, on ne sait pas si c'est un garçon parce qu'il a mis une photo de fille en avatar, une jolie fille. Et donc, Julien voulait être présenté, mais Maxime ne la connaît pas.
Donc, c'est peut-être Maxime. Donc, Maxime, est-ce que tu es satisfait de la réponse?
Oui.
D'accord.
Ça me va.
Alors, la suite, Maxou.
Donc, une question d'entraînement. On voit souvent des nageurs pros ou amateurs qui sont assez balèzes. Donc, est-ce que la piscine muscle? Et est-ce un bon entraînement pour la sèche?
Je dédicace cette question à mon ami Julien Vélesson. Je l'ai choisi pour toi.
C'est vrai?
Non, mais je savais qu'elle allait te plaire.
Ah bah oui, j'adore.
Non, mais c'est marrant comme question. Donc, premier point, les nageurs professionnels ou amateurs ne sont pas balèzes. Ce n'est qu'entre guillemets, ne sont pas balèzes. Ils sont plus balèzes que la moyenne de la population, mais on les trouve balèzes à la télé parce qu'ils sont entre eux et qu'on ne voit pas. Moi, je me souviens, pareil, une petite anecdote, quand il y avait les Jeux Olympiques et que Alain Bernard il avait gagné, donc je sais plus c'était en quelle année, ils avaient donné ses mensurations. Et donc je m'étais dit bon bah je vais prendre mon tour de poitrine. Et donc je sais plus à l'époque comment il faisait un truc genre 114 ou 116 de tour de pec. Et tout le monde disait oh là là il est énorme et tout. Moi je voyais le mec, je disais mais il a l'air fin quand même. Puis j'avais mesuré, et puis à l'époque donc 2008, je faisais déjà 122 de tour de pec. Donc je disais bon. Donc en fait le mec paraissait balèze à côté des autres nageurs. Et souvent on oublie aussi que les nageurs c'est la plupart du temps des mecs vachement grands, donc qui font tous 1m85, 90, 95, 2m, donc forcément qui surplombent un peu le monde. Donc voilà, premier point, les nageurs ne sont pas plutôt balèzes comparé à quelqu'un qui fait de la musculation. Il n'y a aucune comparaison possible. Donc après, est-ce que la piscine muscle un petit peu? Voilà, on va dire un petit peu, c'est comme faire du vélo pour prendre des cuisses, quoi. Ça dépend comment on fait du vélo. Si on fait de la natation et puis qu'on fait, je sais pas, sans longueur, comme ça, sans accélérer, sans rien, c'est comme du cardio. C'est comme si je pédale dans la semoule et que je fais 20 km de vélo. Donc, bah, ça donne pas de cuisses non plus, hein. Ça donne un peu de cuisses, un semblant de muscle. Selon les critères culturistes. Donc non, ça ne muscle pas vraiment. Yes, c'est un bon entraînement pour la sèche. C'est une activité cardio, donc pas forcément obligatoire, comme je l'explique sur le site et dans mon dernier ebook. Donc le cardio n'est pas obligatoire pour sécher, donc à voir si vous en avez besoin, mais ça peut être considéré comme un exercice cardio bon pour la sèche si vous préférez nager que courir ou faire du vélo ou faire du stepper. Mais voilà, donc les nageurs pros ne sont pas excessivement musclés, ils sont, pour moi ils sont athlétiques en fait. Je n'ai jamais trouvé énorme.
faut peut-être aussi préciser, notre ami Olivier Bollier, préparateur physique d'athlètes de haut niveau, pourrait le confirmer que les nageurs et les autres sportifs de haut niveau font de la musculation en plus de leurs entraînements. Donc les muscles qu'ils ont pour la plupart du temps sont pas venus uniquement à grands coups de nage, parce que c'est quand même pas c'est pas une contrainte justement. On parlait de contrainte mécanique tout à l'heure, on est dans l'eau, la contrainte mécanique elle est pas suffisante pour développer fortement la masse musculaire. Alors ça marche bien quand on n'est pas du tout musclé, hein. Au début ça fonctionne, mais plus on va être musclé, plus moins il y a de chances que ça donne quoi que ce soit.
Ouais, et puis faut rappeler que le but des nageurs pro, c'est pas d'être musclé. Le but, c'est d'être en performant. Fait, c'est comme le crossfit. On avait fait le podcast spécial crossfit avec Philippe. Donc, le but, c'est pas de devenir musclé. C'est d'être performant en natation. Donc, forcément que les mecs, mais c'est pas le même but que la musculation, quoi. Si vous faites les programmes de super physique de musculation, forcément, vous allez être plus balèze que les nageurs, à terme. Mais c'est vrai qu'en plus, ils font de la muscu pour se renforcer, donc voilà, donc si vous comptez sur la natation pour avoir des épaules énormes, sur le vélo pour avoir des cuisses de folie, ça va pas marcher.
Voilà. Et alors moi, je dirais un truc quand même, je trouve que la natation, pour ceux qui n'ont pas forcément l'objectif de devenir énorme, ou même eux d'ailleurs de temps en temps, je trouve que c'est pas mal comme sport à l'utiliser comme séance de récupération en fait. C'est-à-dire après un gros entraînement de muscu, de faire une petite séance de natation sans forcément forcer comme un dingue, c'est pas mal parce que ça sollicite quand même bien. On peut alterner les nages, par exemple faire du crawl, de la brasse, rien que ça sollicite pas mal les muscles du dos, les muscles des bras, et du coup ça fait une bonne récupération active.
Quel est ton nage préféré, Julien?
Accélérer la disparition des courbatures, le crawl.
Et Akuma, il nage comment?
Ma nage préférée, c'est ce que je pratique, mais.
Et Akuma, il nage comment?
Akuma, il nage pas trop, non, il aime pas trop l'eau. Enfin, plus que d'autres chats, mais il aime pas trop nager. Je vais l'emmener à la piscine cet été et on verra ce que
mais
ça donne.
Ça relaxe un peu d'aller dans l'eau, de nager un petit peu, mais. Après, il y a un inconvénient, c'est quand on est. Moi, j'ai remarqué au fur et à mesure de ma progression, c'est que quand tu n'as plus l'habitude de nager et puis que tu progresses musculairement, tu as de plus en plus de muscles. Et après, quand tu nages un peu, tu fais genre 100 mètres de crawl et puis tu sens que tu gonfles. Tu sens que tu congestionnes et puis tu fais 200 mètres, tu te dis putain, mais. Puis tu sors de l'eau, t'es énorme. C'est bon.
C'est plutôt bien, c'est agréable.
Ouais, non, c'est pas agréable parce que tu peux pas nager longtemps après. Car le premier jour, tu peux pas nager longtemps. Et puis au bout de 3-4 jours, c'est bon, quoi. Mais le premier jour, t'es paralysé, quoi. C'est justement, ça me rappelle une anecdote dans un des premiers Flex, donc c'est un magazine de musculation que j'avais acheté quand j'étais gosse. Et Cutler, il disait qu'il avait, donc c'est une anecdote à la con, hein. Il avait payé pour aller faire une croisière, et donc il s'était mis dans l'eau et il pouvait pas bouger en fait. Le mec, il avait l'impression de couler, et dès qu'il bougeait, il congestionnait un peu trop. Donc il disait qu'il était déçu parce qu'il avait pas pu profiter de l'océan. Il est trop balèze le mec, donc ça m'étonne pas en fait, mais c'est possible en fait que le mec coule, c'est un poids lourd. Donc voilà pour la question.
Ok. Donc une question d'esthétique. Que penses-tu
de l'acide? Il faut prendre du café pour les podcasts.
Hein?
Je dis qu'il faut prendre du café pour les podcasts.
Pourquoi?
Pour être réactif.
Voilà. Embête pas mon poulain, bon. Toi. Max, on va le défoncer. J'ai son adresse. J'ai son adresse en départ.
L'acide diaspartique, c'est ça la question?
Voilà, que penses-tu de l'acide diaspartique, Julien? C'est un de mes chouchous comme supplément, ça.
C'était. Il n'y avait pas quelque chose de plus précis dans la.
Si, en fait, c'est que penses-tu. En fait, c'est que penses-tu de l'acide diaspartique? Et en fait, la personne demandait après comment prendre l'acide diaspartique? Faut-il faire des cures? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre en fait comme effet?
Il y a pas, je crois que j'ai lu quelque part quelqu'un qui me demandait si prendre ce complément alimentaire là, ça allait pas éteindre la production naturelle de testostérone.
Oui, il y avait ça aussi, mais bon.
Donc ça me semblait intéressant aussi. Qu'est-ce que je pense de l'acide aspartique? Pas grand chose, hormis le fait que dans certaines études, il semble que ce soit probablement parmi les seuls compléments alimentaires qui aient un véritable impact sur la production de testostérone naturellement, on va dire. Bien que ce soit pas une augmentation stratosphérique similaire à celle qu'on puisse obtenir avec des produits interdits, mais il semble qu'il y ait une action réelle. Mais bon,
moi je sens un effet quand même quand j'en prends. Je sens une petite
différence. Globalement oui, les gens ont un peu le même retour que toi, mais c'est vrai que sur un plan purement scientifique, si on voulait être hyper rigoureux, on n'a pas vraiment beaucoup d'études chez l'homme pour pouvoir affirmer à 100%. Voilà. Mais bon, à titre personnel, je pense que c'est quand même quelque chose d'efficace. Ensuite, il faut savoir un peu ce qu'on espère de ces produits-là. Hein. C'est pas uniquement en prenant ça qu'il va y avoir des gains particuliers, à mon avis, au niveau de la masse musculaire. Le mécanisme, ce serait plutôt au niveau de la production de testostérone par les organes sexuels, donc il n'y aurait pas d'impact négatif sur la production naturelle pendant et après la prise de ce produit-là. C'est à contrario des produits dopants, qui eux amènent directement des hormones et qui ont un effet d'endormissement sur l'hypophyse. Donc pas de danger notable par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux dire. Hein. Moi personnellement, j'utilise pas ce genre de choses, mais...
C'est parce que tu n'en as pas besoin, Julien.
Ah oui, j'ai déjà trop de masse musculaire, j'arrive plus à me déplacer dans mon appartement, donc j'essaye de limiter ce genre de produit.
Donc comment est-ce qu'on prend ça? Est-ce qu'on prend ça en cure? On peut en prendre toute l'année?
A priori, en prendre toute l'année, on n'en sait rien, on n'a pas d'études. A priori, je pense pas que ce soit bien dangereux. Et comment on le prend? Bah, j'en sais rien. Je pense que t'es plus à même de donner des bons conseils là-dessus.
Bah ouais, mais c'est ce que je dis à mes élèves. Bah, je fais ce que moi j'en prends toute l'année. Hein. C'est pour ça que je pose la question aussi.
D'accord.
Donc, moi, bah, je prends 6 grammes par jour et en général, je divise 3 grammes au petit-déj et puis 3 grammes en collation de l'après-midi ou au dîner. Peu importe. Mais en gros, 6 grammes par jour. Et c'est là que je sens un effet. À 4 grammes, je sentais rien et à 6 grammes, je sens que c'est la bonne dose pour. Et je connais Monsieur Gilles Pinero de la team Superphysique, ce Julius, et un coup j'avais filé une boîte.
Ouais.
Et lui il avait pris 9 grammes.
Et alors?
Et il y avait des effets négatifs entre guillemets.
Du, par exemple?
Bah ça augmentait fortement sa libido.
Ah d'accord.
Donc il m'a dit ah, c'est trop bien et tout. Il était content. Gilles, je sais que tu m'écoutes pas, mais j'ai parlé de toi quand même. Mais c'est vrai que je lui avais filé ça, et puis lui, comme il respecte jamais les dosages, ce con, il avait pris 9 gélules d'un coup. Je lui ai dit non, mais pas d'un coup en plus. Et puis il avait pris pendant une semaine, alors il était remonté. Hein. Il était remonté à fond. Donc c'était drôle. Donc moi j'en pense du bien de cet acide aspartique. C'est pour ça que j'avais mis des suppléments dans la boutique contenant cet ingrédient, parce que je sens vraiment un petit effet. Je sens autant d'effets sur la testo l'acide aspartique que les BCA pour la récupération ou que les glucides pendant l'entraînement.
Bah, c'est-à-dire que autant pour des plantes comme le Tribulus terrestris, il y a vraiment que des études bidons ou alors qui donnent que des résultats négatifs, autant pour l'acide aspartique, il y a des études qui suggèrent un bénéfice. Donc... je me pencherais si je devais acheter un complément alimentaire de ce type, je me pencherais plus pour l'acide aspartique que pour autre chose. Ça c'est sûr.
Et ben voilà. Donc Max, je crois que tu avais une petite question.
Oui, c'était pour ceux qui veulent s'entraîner à la maison, quel matériel tu conseillerais pour débuter?
En général, justement, c'est une bonne question parce que souvent on m'écrit donc pour le coaching et on me dit alors j'ai ça comme matos, est-ce que ça suffit pour progresser, etc. Donc en général, bah, la base c'est déjà d'avoir un banc avec des repose-barres qui se règlent en hauteur, une grande barre, donc la plus grande possible c'est mieux, deux haltères et puis beaucoup de poids, donc au moins une centaine de kilos de poids pour être tranquille. Donc ça c'est la base, déjà rien qu'avec ça on peut faire déjà pas mal de choses. Donc on va budgétiser tout ça, un banc comme ça, ça va coûter allez 150 € avec les repose-barres, tout compris. Si on prend tout en séparé, bah, il y en a pour 200-300 €. La grande barre, les poids, en gros, font compter un investissement de 500 euros à peu près. Au départ, pour s'équiper, et après, petit à petit, bah, on peut s'équiper. Soit on va en salle, soit on continue de s'équiper avec une barre de traction, des barres à dips. Julien, arrête de taper sur le clavier. Ah là là, c'est Julien, il est indomptable. On l'entend après, on nous critique. C'est Julien qui tape sur le clavier. Hein. Dites-lui d'arrêter.
C'est pas vrai, mensonge.
Donc voilà, donc un banc avec repose barre, une grande barre, deux haltères, donc la base. Après, si on peut, bah, barre de traction et station pour les dips. Et après, bah, si on a beaucoup de place et puis qu'on veut pas aller en salle, bah, une poulie haute avec poulie basse. Puis là, on est déjà pas mal équipé pour progresser un sacré moment, quoi. Et après, bah, si on a vraiment de la place, presse à cuisse, etc. Mais bon. Après, là, ça devient vraiment une sacrée salle à domicile. Et donc, j'en profite justement pour annoncer un nouveau partenariat super physique. Donc, avec la marque PowerTech. Donc, on trouvait avant sur les sites allemands. On en avait déjà parlé sur le forum. Et donc là, ils nous ont proposé un partenariat, donc ils vont avoir une petite bannière sur le site et sur le forum, et donc ils vont participer sur le forum, ils ont une rubrique exprès, donc avec des promotions exprès pour les membres de Superphysique. Ils vont sponsoriser les concours Superphysique aussi, donc il y aura des fois des bons à gagner, du matériel. Donc voilà, donc normalement ça va commencer, je crois que c'est la semaine prochaine, j'espère. Donc partenariat avec PowerTech France.
Ils font du matos qui est d'un bon rapport qualité-prix, si mes souvenirs
sont bons. Voilà, c'est du semi-pro, en fait. Ça vaut body solide.
D'accord,
ouais. Ça vaut du body solide, en fait. C'est du semi-pro. Donc, c'est pas les premiers prix. C'est pas du Decathlon ni du GoSport. Donc, c'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus solide, en fait. Donc, c'est... Donc, c'est du semi-pro. C'est pour ceux qui s'entraînent chez eux et puis qui
espèrent
progresser au-delà de leur espérance.
Il y a un peu plus de choix aussi au niveau produit que des marques que tu
Ah oui, ah bah là t'as tout ce que tu. J'ai vu le site, j'ai déjà vu le site, je donne pas encore l'adresse, mais j'ai vu le site. Oh, il y a tout. Il y a tout ce qu'on veut, hein, comme pour s'entraîner. Là, il y a vraiment. Pas de soucis, puis ils font des packs exprès pour s'entraîner à domicile, etc. Donc voilà, c'est le nouveau partenaire de Superphysique, la marque PowerTech. Ça répond à ta question, Max, pour savoir comment s'équiper chez soi?
Bah oui. En plus, je voulais m'acheter un. Je pensais commander un banc PowerTech.
Eh bah ça voilà. Bah attends la semaine prochaine, comme ça, le partenaire sera content. Voilà. Bon bah donc, Julien.
Oui.
Ah le sagouin, celui-là. On l'entend au clavier encore.
Bah non, mais il y a des problèmes auditifs. T'as des problèmes auditifs, Rudy, hein?
Oh. Ah, le pourri, putain! Ah, le roukmout! Il arrête pas!
Ça, c'est... Tu sais, quand on commence à entendre des bruits de clavier comme ça, c'est pas bon signe en général.
Mais c'est le début de la fin. Plus un en dessous du podcast si vous avez entendu Julien taper au clavier. Et vous pouvez lui écrire directement un message privé sur Facebook pour lui dire d'arrêter. Il sera content. Oh. Donc voilà, on a fini le podcast donc pour ce soir. Nous allons laisser Julien vaquer à ses occupations de clavier.
D'accord.
Donc merci Maxime d'avoir participé. Donc c'est toujours cool. Donc je vous rappelle que vous pouvez donc poser vos questions sur le forum pour le podcast. Donc c'est la rubrique entraînement. Donc après on sélectionne les questions et puis on y répond de toute façon toujours dans la bonne humeur. Et si vous voulez participer au podcast, bah, il suffit de m'écrire n'importe où. Et je vous donne la date à laquelle vous participerez avec nous au podcast. Donc on s'amuse bien, on mange pas.
On mange pas.
Bah non, on mange pas d'humain.
Ah.
Voilà, Julien est mort ce soir.
Non.
Il n'est pas dans son état normal.
Non mais moi j'ai pensé bouffe, toi, tout de suite.
Donc voilà, merci Maxime, et puis donc je vous dis bonne écoute à tous, et donc on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.
Merci Maxou, salut.
Salut.